Premier avertissement, comme vous le voyez avec le titre, je vais parler, comme Sandrine Giroux tout à l'heure, de la pratique. Donc, on est ici dans un lieu académique et je ne vais pas être à la hauteur des attentes de ceux qui aimeraient une présentation académique. Deuxième avertissement, comme Sandrine Giroux aussi tout à l'heure, je vais plutôt faire un survol qu'une présentation exhaustive du sujet. J'ai beaucoup trop de slides, je les passerai plutôt rapidement et je vais m'arrêter à quelques points. Je commence par la base légale, donc l'article 183 LDIP donne clairement la compétence aux tribunaux arbitraux d'ordonner des mesures provisoires. Ça pose aucune difficulté. Ça pose aucune difficulté aujourd'hui, mais souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, alors en arbitrage international c'était il y a 30 ans, mais en arbitrage interne, il y a encore 10 ans, on avait le concordat qui nous disait, comme un intervenant le disait ce matin, que l'arbitre peut proposer des mesures provisoires, mais il n'avait aucune autorité pour en ordonner. Et puis donc le texte légal dit « sauf convention contraire des parties », donc ça signifie que les parties peuvent renoncer à enlever cette compétence au tribunal arbitral. Les parties pourraient aussi la restreindre pour dire « oui pour certaines mesures, non pour d'autres ». Les parties ne peuvent pas l'augmenter, il n'y a pas de place ici. En pratique, on ne trouve pas de telles clauses. On n'en trouve évidemment pas dans les règlements d'arbitrage. Vous connaissez les règlements d'arbitrage, ils ne prévoient rien de particulier à ce sujet. Et on ne trouve pas non plus de clauses dans ma pratique. Peut-être que vous en avez vu d'autres. Il y a des personnes dans la salle qui ont beaucoup d'expérience. Mais moi, je n'ai jamais vu dans la pratique de clauses arbitrales qui prévoyait un accord des parties différent. Donc, en général, le principe, c'est que, et c'était le cas jusqu'à il y a quelques années, il faut que le tribunal arbitral soit constitué, bien sûr, pour pouvoir ordonner des mesures provisionnelles. Et puis, l'inconvénient, c'est que ça peut mettre un certain temps. Donc, si on avait des mesures urgentes, on allait devant le tribunal étatique. Et puis, aujourd'hui, on a cette institution qui est l'arbitre d'urgence, Emergency Arbitrator. Donc ici, il y a le règlement des Swiss Rules qui date de 2012 et qui prévoit de manière assez longue les compétences de l'arbitre d'urgence. On a un rapport de la CCI qui date d'il y a 2 ou 3 mois qui est dans votre documentation. Donc la documentation, ce n'est pas une documentation qui est physique, c'est une documentation que vous trouvez sur le site internet de l'Institut suisse de droit comparé. Vous avez d'abord accès à une page qui s'appelle « Documentation ». Et puis, à partir de là, vous pouvez cliquer sur différents documents, notamment ce rapport de la CCI de cette année qui traite de l'arbitre d'urgence. Et puis ici, j'ai une première question en pratique. Est-ce que l'arbitre d'urgence va avoir tendance à accorder des mesures provisoires plus facilement que le tribunal arbitral qui est constitué pour trancher sur le fond? Alors j'ai fait un petit sondage, et j'y reviendrai avec d'autres questions. J'ai interrogé 11 praticiens genevois dans 11 études différentes, mais enfin ça reste évidemment pas du tout représentatif. Et vous avez aussi dans la documentation, vous pouvez cliquer pour avoir les résultats généraux du sondage. Et sur cette question, les réponses sont diverses. Donc certains disent non, c'est la même chose. D'autres disent oui, l'arbitre d'urgence accorde plus volontiers pour différentes raisons sur lesquelles je vais pas rentrer, mais donc qui sont des raisons purement pratiques en termes de compétences. L'arbitre d'urgence a les mêmes compétences que le tribunal arbitral qui ordonne des mesures provisionnelles, donc sur mesures provisionnelles, bien sûr. Le tribunal arbitral, en plus, il a ses compétences sur le fond, que l'arbitre d'urgence n'a pas. Mais, donc, indépendamment de la compétence, en pratique, certains considèrent que l'arbitre d'urgence accorde plus volontiers des mesures provisionnelles. Alors, on a parlé aussi ce matin de la notion de mesures provisoires. J'aime cette définition large de Sébastien Besson dans un article de 2014 qui, en renonçant à faire des catégories, fait une description générale et générique de ce que peuvent être les mesures provisoires. Si on essaye de faire des distinctions, on aime toujours faire des distinctions. Il y a les Sicherungsmaßnahmen, les Regelungsmaßnahmen, les Leistungsmaßnahmen. Je crois aussi que le professeur Bonomi en a parlé ce matin. Alors, on peut faire cette distinction. À mon sens, en arbitrage, il n'y a pas de conséquences. Ce serait une distinction intéressante à faire si on disait, alors, pour les Sicherungsmaßnahmen, les conditions sont les suivantes, et pour les Leistungsmaßnahmen, elles sont différentes. Ce n'est pas le cas. Donc, je vous propose de ne pas passer du temps sur ces distinctions. Une autre distinction qui me paraît peut-être plus intéressante, c'est entre ces trois, d'une part, qui concernent en principe le fond, et puis des mesures qui concernent plutôt la procédure. Et donc là, je vous donnais quelques exemples, anti-suiting injunction, security for cost. Security for cost, ça me paraît typiquement une catégorie où on a une pratique et où on applique des conditions différentes. Et donc, quand on parle de fumus boni iuris ou quand on parle de l'urgence, évidemment, ce n'est pas pertinent pour security for cost. Donc, à mon sens, ces mesures provisionnelles, qui peut-être en droit étatique ne seraient pas des mesures provisionnelles, parce qu'on se demandait aussi ce matin, est-ce que en matière de procédure, le maintien de la preuve, on rentre ou pas dans les mesures provisionnelles. Donc, en arbitrage, c'est une grande catégorie. Tout ça, c'est des mesures provisionnelles. Je crois que ce n'est pas contesté. Mais, à mon sens, les conditions ne sont pas nécessairement les mêmes quand c'est des mesures provisionnelles qui concernent la procédure. La dernière ligne, interdiction d'aggraver le litige, c'est une catégorie intéressante qui peut recouvrir beaucoup de choses. Je note juste que ça peut être un moyen d'attirer l'attention du tribunal arbitral, peut-être moins de l'arbitre d'urgence. Le tribunal arbitral n'a pas envie qu'on aggrave le litige, donc si vous arrivez à le convaincre que cette mesure est nécessaire pour éviter d'aggraver le litige, vous avez plus de chances d'obtenir la mesure que vous souhaitez. J'ai essayé de faire un petit dessin, il n'est peut-être pas clair. Il y a un exemple qui me semblait intéressant de traiter, qui est une décision d'un arbitre OMPI qui date d'il y a 10 ans. C'est un arbitre unique qui est nommé pour trancher sur le fond et qui est saisi d'une demande de mesure provisoire, en fait, de demande de mesure provisoire des deux parties, bien sûr, chacune à son point de vue. On a un donneur de licence, donc c'est essentiellement une licence de marque, il y a peut-être aussi du savoir-faire ou d'autres choses, un preneur de licence, et puis on a un stock d'habits, et puis la petite étoile sur le t-shirt, c'est pour dire qu'il y a une marque là, donc c'est la marque qui est l'objet de la licence. Et puis ce contrat est résilié, les deux parties finalement sont d'accord que le contrat est résilié, mais ensuite elles sont en litige sur les conséquences de la résiliation, et notamment qu'est-ce qu'on fait du stock. Le preneur de licence dit « laissez-moi le vendre ». Le donneur de licence dit « mais ça ne va pas, vous le vendez dans des conditions qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on souhaite ». Le preneur de licence dit « mais laissez-moi vendre » et l'arbitre doit trancher. Et il rend une décision, est-ce que c'est une sentence ou pas, on peut discuter, dans laquelle il dit « le preneur de licence doit vendre tout le stock au donneur de licence ». Et c'est le donneur de licence qui vendra. Et le prix, il y avait un prix minimum qui était admis par le donneur de licence. Donc, le donneur de licence commence par payer ce prix au preneur de licence, mais c'est un prix provisoire. Et on verra, l'arbitre tranchera sur le fond et il décidera du prix. Mais en attendant, ce stock d'habits sort de la propriété du preneur de licence et va au donneur de licence. Et donc, est-ce que c'est vraiment des mesures provisionnelles? Parce que le preneur de licence dit, mais... finalement, vous m'obligez à transférer de manière définitive et irrévocable le stock de vêtements en ma possession, à en transférer la propriété, et ça, on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, est-ce que vraiment on est dans une mesure provisoire? Et le tribunal fédéral dit oui, on est dans une mesure provisoire, parce que c'est peut-être pas une Sicherungsmaßnahme, mais c'est peut-être une... Leistungsmaßnahme ou bien une Regelungsmaßnahme. Et donc, quand bien même cette mesure de transfert de propriété est définitive et irrévocable, le tribunal fédéral nous confirme que c'est une mesure provisoire. La réponse n'est peut-être pas valable dans d'autres juridictions, elle n'est peut-être pas valable dans d'autres pratiques. À mon sens, elle représente bien la pratique suisse et la conception large de la pratique arbitrale suisse des mesures provisionnelles. Le droit applicable, quelqu'un me posait la question ce matin, j'espère que vous allez parler du droit applicable. Non, je ne vais pas parler du droit applicable. Je ne vais pas en parler parce que finalement, la pratique, mon exposé encore une fois, est pratique. Et en pratique, on n'en parle pas. Les parties plaident sur la base de standards internationaux, les tribunaux arbitraux décident sur la base de standards internationaux. J'ai écrit Tainted parce que dans un séminaire, il y a 2 mois, Maxi Scherer disait OK, on dit qu'on applique les standards internationaux, mais en fait, chacun applique ses propres standards internationaux, donc ce n'est peut-être pas vraiment les mêmes. Quelles conditions, donc, dans la pratique, directement, sans se poser la question du droit applicable? Donc, ça s'est tiré d'un article d'Eliot Geisinger d'il y a une douzaine d'années, donc 14 ans maintenant. Donc, je vais les passer en revue, mais très rapidement, la compétence prima facie du tribunal arbitral, donc même seulement prima facie, on n'est pas obligé de le démontrer. La vraisemblance du droit de fond, elle n'est même pas toujours examinée. Le risque d'éviter de préjugés, c'est parfois là, c'est en général pas développé. Le risque d'un préjudice difficilement réparable, en général, c'est un élément, mais ce n'est pas toujours une condition stricte. L'urgence, ça dépend aussi comment on définit l'urgence, mais dans le fond, ce n'est souvent pas sous la condition de l'urgence qu'on va l'examiner. Et finalement, dans ma perception de la pratique, mais encore une fois, ça se discute et je ne veux pas du tout dire que toutes les autres conditions n'existent pas, mais elles me semblent souples, alors que ce critère, proportionnalité, peser des intérêts, il me semble que on ne peut jamais passer à côté de ce critère. Ici, je vous ai mis la loi modèle, donc telle qu'elle a été complétée en 2006, avec ce test. Such harm substantially outweighs the harm that is likely to result to the party against whom the measure is directed if the measure is granted. Alors, il y a des pays qui ont repris la loi modèle, mais il y a un certain nombre de pays, bien sûr, qui ne l'ont pas repris. Mais ça montre. Finalement, là, on a un standard qui est appliqué par la pratique internationale, y compris en Suisse, de manière pragmatique. C'est du soft law, la pesée des intérêts, la pesée des torts. Ici, une sentence de 2003 qui posait déjà ce critère de balance of the harms. Et puis ici, un extrait de la sentence, ordonnance de l'arbitre dans l'arbitrage OMPI dont je vous parlais tout à l'heure. Le tribunal arbitral, donc c'était un arbitre unique, est guidé par le principe de la balance des préjudices. En d'autres termes, il lui appartient de vérifier si l'octroi de la mesure sollicitée implique ou non pour la partie contre qui une telle mesure est demandée un préjudice hors de proportion avec l'avantage que retirerait l'autre partie de l'octroi de la mesure. Donc là, on est dans la proportionnalité. Et en parlant de proportionnalité, j'ai envie de faire un lien, mais j'essaye, et puis vous me direz si vous trouvez que ça n'a aucun sens, avec le principe de la proportionnalité en droit public. Et en droit public, traditionnellement, là c'est un extrait d'une table des matières de l'ouvrage de Thierry Tancrel, ce Ferreur, on peut décomposer le principe de la proportionnalité. Classiquement, je ne suis pas un spécialiste de droit public, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me contredire. En 3 sous-principes, l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. L'aptitude, c'est que la mesure soit apte à permettre d'obtenir le résultat qu'on vise. Et donc là, encore une fois, on est dans du droit public, mais il me semble qu'on peut se poser la même question quand on octroie une mesure provisionnelle. Et peut-être que c'est ce dont on parlait ce matin, instrumentality, question mark. La nécessité, on peut relier ça aussi à l'urgence. La partie qui demande la mesure en a un besoin. Et puis la proportionnalité au sens étroit, c'est cette pesée des intérêts des deux parties pour voir si la partie qui demande la mesure a un intérêt plus grand que celle contre qui elle est demandée. Les sûretés, on en a aussi parlé ce matin. Donc le tribunal arbitral peut ordonner des sûretés, c'est prévu de manière express par l'article 183 alinéa 3 LDIP, et j'ai mis, on n'arrive pas à le lire, je suis désolé, application limitée en pratique, dans mon petit sondage non représentatif, le pourcentage de cas dans lesquels les sûretés sont ordonnées alors que des mesures sont accordées, bien sûr, si des mesures ne sont pas accordées, la question ne se pose pas, mais le pourcentage dans le cas où des sûretés sont accordées est inférieur à 20%. Donc ça veut dire que dans 4 cinquièmes des cas, le tribunal arbitral est prêt à donner des mesures sans demander de sûreté. Le droit d'être entendu, on en a aussi parlé ce matin, c'est essentiel, mais est-ce qu'on peut donner des mesures super-provisionnelles, des mesures pré-provisionnelles des mesures ex parte. Et donc là, c'est un extrait de l'article 26, alinéa 3 des Swiss Rules. Dans des circonstances exceptionnelles, on peut. Donc c'est clairement... C'est, évidemment, il ne suffit pas que ce soit dans les Swiss Rules pour que ce soit conforme au droit, mais la doctrine est aujourd'hui unanime, en Suisse en tout cas, sur le fait que c'est possible d'accorder des mesures pré-provisionnelles, donc tant pour un tribunal arbitral qui est constitué pour trancher le fond et qui est saisi d'une demande de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles, que pour un arbitre d'urgence. Alors ensuite, on peut critiquer la pratique, mais sur le principe, c'est complètement admis. Mais en pratique, la pratique en Suisse, c'est que c'est pratiquement pas appliqué. Donc, de nouveau, j'ai posé la question dans mon petit sondage non représentatif, j'insiste sur le non représentatif, et sur les différentes personnes que j'ai consultées, il y avait un seul cas dans les trois dernières années où un arbitre avait accordé des mesures ex parte. Donc, c'est clairement admis, mais en pratique, peu utilisé. Est-ce qu'on peut déléguer au président? En principe, oui, implicitement, ça se discute. Est-ce que c'est une ordonnance ou une sentence? Eh bien, en Suisse, c'est plutôt une ordonnance, puisque le tribunal fédéral a dit qu'il n'y avait pas de recours, que ce n'était pas une décision. Et c'est donc dans le cas dont je vous parlais tout à l'heure, encore une fois, ce cas de l'OMPI de 2009, que le tribunal fédéral l'a dit. On dit parfois qu'il y a des exceptions, à mon sens, il n'y en a pas. Les limites pour des mesures ordonnées par des mesures provisionnelles ordonnées par un tribunal arbitral, on en a parlé, on en reparlera, donc pas vis-à-vis des tiers, pas in rem, pas d'imperium, pas de caractère définitif. La possibilité d'exequatur, donc on a tendance à penser, on est en Suisse, on ne peut pas l'exécuter, le tribunal fédéral nous dit non, voilà, on a tendance à s'arrêter là. Selon, je ne suis pas un spécialiste de droit comparé, donc peut-être que cette carte est fausse, encore une fois, n'hésitez pas à me contredire, mais selon le rapport de la CCI de 2019, qui contient une liste des pays avec des tableaux sur les pratiques dans les différents pays, on voit qu'à part la Suisse, on a la France, la Suède et la Finlande qui disent non, mais on a plusieurs pays, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, qui permettent l'exequatur. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir la mesure provisionnelle devant un arbitre suisse et puis aller l'exécuter dans les pays en vert. Cet exemple-là est finalement pas un bon exemple parce qu'il y avait une sentence finale. La force de la décision, donc si elle n'est pas respectée et puis qu'on ne peut pas la faire exécuter, on peut avoir des dommages d'intérêt pour une exécution. Dans l'autre sens, on peut avoir des dommages d'intérêt pour la partie intimée, si la mesure finalement n'est pas justifiée. Je ne vais pas en parler, c'est de nouveau un sujet assez intéressant, assez complexe, peu utilisé en pratique. Le tribunal arbitral a un levier sur les coûts à la fin. Le tribunal arbitral a une certaine autorité morale. De nouveau, un extrait de l'article d'Eliot Geisinger. Ne pas se soumettre à une décision arbitrale est un moyen efficace de s'aliéner à tout le moins temporairement la bienveillance du tribunal arbitral, donc ce qui peut expliquer que les parties exécutent. Et puis il y a les astreintes. Donc les astreintes, je le rappelle, j'espère de nouveau que je ne dis pas de bêtises, je ne suis évidemment pas un spécialiste des astreintes, qui est une institution de droit français, pas une institution de droit suisse. Les astreintes, c'est une amende, mais c'est une amende qui n'est pas payée à l'État, c'est une amende qui est payée, c'est une pénalité qui est payée à la partie à laquelle on doit quelque chose et qui en général est fixée par jour. Et donc, voilà, pour chaque jour de retard, vous devez payer 1 000 euros. Est-ce que les arbitres ont la compétence d'ordonner des astreintes? De nouveau, c'est un sujet juridique assez complexe. Un petit extrait de quelques auteurs. Voilà, on a des auteurs qui sont pour, on a des auteurs qui sont contre, on a des auteurs dont je ne vois pas qu'ils aient pris position. À ce propos, dans la documentation, il y a aussi une bibliographie qui concerne différents articles et livres en matière d'arbitrage, que ce soit en matière générale ou en droit suisse. Ce que je constate aussi dans mon sondage non représentatif, c'est que personne, aucun des praticiens que j'ai consultés, a eu de cas où le tribunal arbitral, avec siège en Suisse, bien sûr, s'il y a un siège en France, droit français, c'est autre chose, n'a ordonné d'astreinte dans les trois dernières années. Donc c'est un sujet intéressant, la doctrine est divisée, on ne sait pas, peut-être que ça mérite d'être développé, mais en pratique, c'est pratiquement pas utilisé. Les negative inferences ou le soutien de l'institution d'arbitrage pourraient être d'autres moyens de donner de la force à la décision. Les tribunaux étatiques, on l'a dit, ils ont une compétence parallèle, donc le requérant a le libre choix de s'adresser aux tribunaux étatiques ou à l'arbitrage. Est-ce qu'on peut exclure la compétence du juge ? Le professeur Bonomi a posé la question ce matin. Pour moi, c'est une question délicate. À part Göksu, il me semble que tous les auteurs de doctrine disent oui, on peut exclure la compétence des tribunaux, voilà, pour connaître des mesures provisoires. C'est comme pour connaître du fond, et c'est le principe de l'autonomie des parties, la disposition de l'objet des litiges, etc. Je souhaiterais mettre en garde ceux d'entre vous qui seraient tentés de considérer que la messe est dite, puisque la doctrine pratiquement unanime est de cet avis. D'abord, il me semble que le siège de la matière, savoir si on peut ou pas, ce n'est pas le chapitre 12 de la LDIP qui va répondre à cette question. Donc, nous qui sommes des praticiens ou même de la doctrine de l'arbitrage international, ce n'est peut-être pas à nous à répondre à cette question. Première caveat. Deuxième caveat, en général, on dit oui, encore une fois, pour les grands principes, mais sans analyse approfondie. Alors, Sébastien Besson, lui, a approfondi, mais il s'est notamment fondé sur un parallèle qui était la possibilité de renoncer au recours dans une procédure étatique qui était admise à l'époque et que depuis, on a dit qu'on ne pouvait pas. Le tribunal fédéral a fermé la porte. Donc, il me semble que l'analyse de Sébastien Besson est un petit peu... perd un peu de sa force de conviction. On n'a pas de base légale. Et puis, on a encore le problème de l'arbitrage sportif. Donc, on a parlé du TAS ce matin, qui lui prévoit ça. Et puis, on a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme l'année dernière, dans l'affaire Mutupechstein, qui nous a dit, mais l'arbitrage sportif, attention, c'est un arbitrage forcé. Il faut respecter toutes les garanties de l'article 6 CEDH. Ce n'est pas comme l'arbitrage consensuel. Donc, je dis attention. Et puis, je voulais attirer votre attention donc, sur cet arrêt du tribunal fédéral où s'est posée la question de la possibilité de renoncer au recours au tribunal fédéral. Et la doctrine disait oui. Et donc, la question est arrivée devant devant la première Cour de droit civil, celle qui est compétente en matière contractuelle, celle qui est compétente en matière d'arbitrage, celle que je connais en tout cas le mieux. Les spécialistes du droit de la famille connaissent peut-être mieux la deuxième, et c'est une cour qui est favorable au principe de l'autonomie des parties. Et donc, ils en ont délibéré, sauf que c'était même en public, et une majorité disait oui, on peut renoncer au recours au tribunal fédéral dans une manière de procédure étatique. Mais c'était une question qui pouvait concerner aussi d'autres cours que la première cour de droit civil. Et donc, ils ont dû faire une consultation. Et donc, ils ont consulté la deuxième cour de droit civil. Puis la cour de droit pénal a dit, moi aussi, j'ai mon mot à dire, parce que finalement, en droit pénal, il peut aussi y avoir des prétentions civiles qui se posent au tribunal fédéral. Et donc, ils ont tenu une délibération, les trois cours ensemble, et là, il y avait une majorité pour dire, on ne peut pas. Et donc, ça, c'est un extrait de la décision. La juridiction étatique est un service public qui doit offrir les garanties inhérentes à un état de droit. Son organisation et son fonctionnement ne peuvent être livrés à l'autonomie des parties. Bah, moi, quand je lis ça, je me dis que si la même question arrive devant les mêmes personnes sur la possibilité de renoncer pour un individu à des mesures provisionnelles de manière complète, pas juste un recours, mais même en première instance, je crains qu'on ait ce même genre de réponse. Le concours du juge, c'est une possibilité qui est offerte donc pour pallier au fait que le droit suisse ne permet pas l'exécution directe. Dans mon sondage non représentatif, aucune utilité, aucune application de cette disposition. Là, de nouveau, je vais sauter là-dessus. Comment est-ce qu'on traite la concurrence entre tribunal étatique et tribunal arbitral. Donc, en conclusion, il me semble qu'une des grandes avancées dans la pratique arbitrale des mesures provisionnelles, c'est l'arbitre d'urgence qui existait déjà il y a 10 ans, mais qui commençait seulement et qui s'est beaucoup développé. Le fait qu'en Suisse, la force exécutoire des mesures provisionnelles soit pas reconnue m'apparaît finalement pas comme un handicap, parce qu'en pratique, les parties approuvent, les partis appliquent, les partis suivent le jugement sans autre. Et je pose la question, est-ce que ce serait utile d'avoir des astreintes? Est-ce que c'est utile parce que ça donne un moyen supplémentaire au tribunal arbitral ou à l'arbitre d'urgence de faire exécuter? Ou est-ce que ça complique encore les choses? Chacun son avis. Je m'arrête sur cette question et je vous remercie de votre attention.